Grain de sel, une émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Valois-Mulsien, c'est Frédéric. J'étais le 14 avril 2023 avec six jeunes filles de seconde du lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois qui présentaient des œuvres d'art choisies en amont au musée de l'Archerie et du Valois devant leurs camarades de classe dans le cadre de l'option Histoire des arts. Découvrons ces jeunes filles et leur médiation.
Héloïse, je vais avoir 16 ans.
Et tu as choisi quoi comme œuvre ?
Les boiseries.
Et qu'est-ce qui t'a intéressée dans...
La symbolique, pas la symbolique des symboles, c'est un peu nul, mais par exemple le fait qu'il y ait des images dans les médaillons et de retrouver ce que ça signifiait, etc.
Et il y avait quoi dans ces médaillons ? Est-ce que tu peux en dire
Du coup, les éléments de la vie, prenons le premier avec l'agneau pascal, qui est le premier moment où ils égorgent un agneau par famille pour avoir la protection de Dieu.
Ça t'intéresse ce thème-là ?
La religion ou... Alors, moins, mais c'était le fait de faire la recherche de tout ça qui m'a plu.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Est-ce que tu as déjà choisi un métier ?
Bibliothécaire ou éditrice.
Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette option histoire des arts ?
C'est justement la recherche des symboles dans les peintures. Dans ma famille, on aime beaucoup ça.
Parce que je
ne
sais pas si vous avez remarqué, il y a des petits médaillons qui tournent et ils ont chacun une signification. 4 sur les 6 représentent un moment de l'Ancien Testament et de l'autre représentent un moment du Nouveau Testament. Commençons par notre petit agneau qui s'appelle l'agneau pascal. Il représente le sacrifice d'un agneau par chaque famille hébreu pour la protection de Dieu. Vient ensuite la deuxième avec le serpent des reins. Le serpent des reins représente le serpent de Moïse qui va contrer le venin des serpents brûlants, donc les serpents venimeux du désert. Vient ensuite les tables de loi, qui représentent donc la parole de Dieu et du coup les 10 commandements.
L'arche d'alliance.
Julia, j'ai 16 ans.
Toi, tu t'es intéressée à l'arbalète, c'est ça ?
Oui, je la trouvais très jolie et... l'arbalète à côté, elle était plus simple alors que celle-là était décorée.
Donc c'était une arbalète pour chasser ou pour se battre ?
C'est une arbalète pour les cérémonies. Il n'y avait pas d'étrier. Du coup, l'étrier, c'est pour mettre les flèches. Donc, du coup, comme il n'y en avait pas, on voit que c'est pour les cérémonies. Aussi, en vue des décors, parce qu'elle est bien décorée. Et ça serait abîmé si on l'utilisait pour la guerre.
Est-ce que tu as déjà essayé de tirer à l'arc ?
À l'arc, oui. L'arbalète, non. Ça fait un peu mal. Aux mains.
Est-ce que tu as déjà choisi ton métier ?
Oui, j'aimerais être psychologue.
Cette option, combien d'heures en plus ?
On en a 3. Une le lundi et 2 le mercredi.
Et ça vous va ?
Ça va, ça fait un peu beaucoup au début de l'année, mais finalement, c'est bien.
Et qu'est-ce que vous apprenez d'autre dans cette option ?
On a parlé du paléolithique, de Florence avec la Renaissance, de Londres. En ce moment, on parle de ça et de l'Inde mongole.
Est-ce que tu as quelque chose que tu as aimé au musée, en plus ?
Il y a certains arcs en bas que j'ai bien aimés. Moi, j'aime bien l'arc perse. Et il y a aussi une carte que j'ai découverte aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Une carte du Valois, vieille carte du Valois, et c'est super intéressant.
Les arbalètes proviennent de la Chine antique et sont utilisées pour la guerre, la chasse, les loisirs et le sport. Le mot arbalète signifie balista, c'est-à-dire un arc muni d'un objet appelé baliste qui sert à projeter des projectiles en grande quantité. Les arbalètes sont arrivées en Occident via des mythes et des légendes peu flatteuses. On dit d'elles qu'elles sont diaboliques, à cause de leur efficacité et de leur rapidité. Maintenant, après les généralités sur les arbalètes, je vais vous parler de l'arbalète allemande en elle-même. Donc son nom, l'arbalète allemande, provient, comme son nom indique justement, d'Allemagne. Elle a été créée par une personne anonyme dont nous n'avons aucune information. Sa date de création est entre le 18e et le 19e siècle, soit 1774. Nous le savons car au dos de l'arbalète, il y a écrit justement cette date. Les arbalètes sont principalement composées de ces éléments-là, donc un arc, une corde, un arbrier, une noix. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'arbalète allemande ne possède pas d'étrier.
Yona, alors toi, tu avais choisi quoi ?
L'arc coréen.
Tu peux expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi cet arc en particulier, parce qu'il y en a plein dans le musée.
Parce que j'aimais bien sa forme, le design, la culture aussi de cet arc et apprendre aussi ses techniques.
Toutes ces informations que vous avez trouvées sur ses œuvres, vous les avez trouvées où ?
À la médiathèque, par Laura. Sandra, du coup, elle a fourni aussi des documents sur les œuvres qui viennent du musée.
Et comment vous faites pour regarder tous ces documents ? Vous restez sur place ou vous avez le droit de les emmener ?
Bon, c'était sur place qu'on avait les papiers et tout, mais après, du coup, on a pris en photo pour continuer chez nous.
Et alors, comment tu as trouvé cette expérience de parler devant tes camarades de classe ?
Stressant. De parler devant les gens, regarder aussi les gens droit dans les yeux et ne pas bégayer aussi.
Et ça a bien marché, non ?
Si,
comment
ça va.
Comment tu t'es trouvé ?
Ça va, c'était bien.
L'histoire des arts.
Comme vous l'avez compris, le projet consiste à présenter une œuvre de notre choix. Moi, j'ai souhaité présenter l'art coréen. Le musée possède deux exemplaires qui datent de 1866, qui a été trouvé sur le chemin de l'Europe par un officier de la marine française, et un qui date de 2017. Nous allons remonter dans le temps. Tout a commencé en octobre 2017. Marion Roux, la directrice de ce musée, a été conviée au 3e festival de l'archerie à Yecheon, en Corée du Sud. Dans ce festival, il y aura des démonstrations de tir et des rencontres avec des acteurs importants du patrimoine culturel. Ce festival consiste à nouer de nouveaux partenariats et de mieux comprendre leurs traditions. Marion Roux a rencontré un facteur d'art nommé King Soon Rak, qui va évoquer ses techniques, sa formation, ses méthodes et la singularité de ses arcs. Cet arc a été acheté par des amis du musée, donné une fois en France. Le prix est de 3000 won, 250 euros environ, à l'époque. Il faut savoir que tirer avec un arc coréen est toujours d'actualité. Pour tirer avec un arc, il existe différentes techniques. Pour cet arc, on tire avec la technique mongole, qui consiste à avoir un anneau de pouce, avec, que vous voyez juste ici, qui consiste à...
Rania. Moi, j'ai choisi l'arc persan. En fait, j'ai trouvé vraiment très beau. Et en fait, comparé aux autres arcs, je trouve qu'il avait vraiment une histoire qui m'intéressait beaucoup. C'est tout ce qui est le Moyen-Orient, tout ça, j'adore. Donc du coup, ça m'a intéressé directement.
Ça vous a fait quoi aussi de parler devant tout le monde ? C'est quand même un travail d'éloquence qui est difficile.
Alors, j'étais très stressée jusqu'à il y a encore une heure. Et puis après, je pense que c'est passé quand j'ai vu mes camarades... le faire aussi, je me suis dit que ça allait aller, ce serait pas trop difficile.
Donc vous êtes contente de vous ?
Ah oui, je suis fière de moi.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Est-ce que tu as déjà trouvé ?
Je sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Je sais que j'aime l'histoire, donc je pense que je vais me diriger vers quelque chose.
Et il y a d'autres choses dans le musée qui t'a plu ?
Pareil que Julia, la carte, que j'ai vraiment adorée et j'aime beaucoup les cartes.
Je vais aller la voir.
Et les arcs, qui retraçaient les arcs dans le monde aussi, la salle d'en bas, c'était aussi très très beau.
RVM, l'option Histoire des Arts du lycée Jean Monnet au musée de l'Archerie et du Valois, découvrons la médiation d'œuvres d'art choisies par 6 jeunes filles.
Sur la totalité des 4 scènes que l'on peut observer sur l'arc, on peut voir qu'il y a 3 cavaliers et un archer en train de chasser. Un cavalier sur son cheval noir attrapant un cerf et un cavalier en rouge sur son cheval blanc attrapant un lapin. Mes recherches m'ont fait remarquer que sur les chevaux, il y avait très peu ou pas du tout de dorure comparé aux cavaliers qui en avaient sur leurs vêtements. Je pense que les dorures ont disparu avec le temps, tout simplement, et que ça s'est effacé. À mon avis, tous les chevaux devaient en avoir à la base. Les scènes de chasse qu'on peut observer nous montrent aussi qu'en arrière-plan, on peut voir des animaux en train de se battre entre eux. Probablement des animaux comme des chiens, qu'on peut facilement identifier avec leur collier, ou d'autres animaux qui sont assez difficiles à identifier, comme par exemple quelque chose qui ressemble à un loup ou à un ours. Mais c'est difficile de savoir si à cette époque tous les animaux étaient domestiqués par l'homme pour la chasse ou pas. Enfin, au loin, dans une sorte de perspective, on peut voir une ville qui semble être, qui pourrait être Téhéran ou une toute autre cité de la même époque. Ce décor crée à l'horizon une sorte de contraste, comme l'impression que c'est très loin et assez près en même temps. Par rapport aux scènes qui semblent se passer sur un marécage avec, entre la terre et la mer. Pour conclure, cet arc est une vraie œuvre d'art qui retranscrit l'art de la chasse perse et son décor dans des scènes de chasse quasi toutes intactes. Elles témoignent de la précision et du talent de celui qui les a peintes il y a plusieurs centaines d'années. Et je vous invite à vous approcher de l'arc.
Vive l'histoire des arts!
Maëlia, qu'est-ce que tu as choisi?
Les vêtements liturgiques.
Et pour quelle raison?
Parce que je l'ai trouvé beau et vu que je suis dans la religion, bah, ça m'a beaucoup intéressée. Le tissu, ça m'intéresse aussi.
Est-ce que tu sais en quel tissu est fait ce vêtement liturgique?
En velours.
Et est-ce qu'il y a un autre endroit aussi qui te plaît dans ce musée?
Bah, j'ai bien aimé l'art coréen.
Qu'est-ce qui est le plus dur quand on parle comme ça devant vos collègues enfin
C'est le stress, je pense, et le regard des autres. Ouais.
Elle a choisi de parler des vêtements liturgiques. Pour rappel, les vêtements liturgiques sont utilisés par les prêtres, lors des diacres et les moines, lors des différentes cérémonies et célébrations religieuses. Mais il sert tout d'abord à distinguer les hommes d'église et le reste de la population, et il permet également de comprendre visuellement la fonction au sein de l'église de celui qui le porte.
Il existe différents types de couleurs liturgiques qui sont utilisées lors de plusieurs cérémonies religieuses, comme le blanc utilisé à Noël, Pâques et l'Épiphanie. Elle symbolise la joie et la pureté et elle est portée également lors des baptêmes et des mariages. Il y a aussi le noir utilisé lors des messes dédiées aux défunts. Elle symbolise le combat de l'Église contre les ténèbres. Et enfin, le vert qui est utilisé durant le temps ordinaire, il symbolise la croissance et l'espérance.
Il y a un ordre dans lequel mettre les vêtements liturgiques. En premier, le prêtre va venir mettre la mycte, qui a un rectangle de lin blanc posé au niveau du col. Ensuite vient l'aube. C'est une grande robe blanche. Elle est portée par tous les officiants. Elle couvre tout le corps, des épaules aux pieds, et présente des manches longues jusqu'aux poignets. Ensuite, l'étole. C'est une bande de tissu mesurant de 2 mètres à 2,5 mètres. Sa couleur varie selon le temps liturgique. Les prêtres et les évêques la laissent pendante de chaque côté du cou. Vient ensuite le tour de la chasuble. Sa couleur varie selon le temps liturgique. Il s'agit probablement de la pièce du vestiaire catholique qui a le plus évolué avec le temps. Il fait parfois partie d'un appareil assorti qui s'appelle l'ornement. L'ornement se comporte d'une chasuble, d'une étole, d'un manipule, d'un voile de calice et d'une bourse destinée à contenir le corporal. Merci de nous avoir écoutés.
Céline, j'ai choisi Saint-Sébastien secouru par un ange parce que c'est le tableau qui m'a tapé dans l'œil. Dès que je l'ai vu, j'ai su que j'allais le prendre.
T'as pas eu trop mal ?
Non.
Tu sais que c'est quand même le fan du musée, le Saint-Sébastien. Tu sais pourquoi ?
Oui.
C'est qui Saint-Sébastien ?
C'est Saint Patron des Archers.
Voilà. Qu'est-ce qui t'a ému dans ce tableau ? Qu'est-ce qui t'a tout de suite touché ?
À la scène de Saint-Sébastien attaché à un arbre. Par rapport à l'émotion que ça dégage. L'émotion de la pitié, oui, et la détresse. J'avais déjà entendu l'histoire de Saint-Sébastien, mais voilà. J'avais jamais vu de tableau dessus.
D'accord. Et t'as vu qu'il y avait d'autres représentations de Saint-Sébastien ?
Il y avait les petites statues qui étaient tout autour. J'ai failli les prendre, mais je préférais quand même le tableau.
Plus tard, est-ce que t'as déjà choisi un métier ?
J'ai pas encore choisi, mais j'aimerais beaucoup me rapprocher de l'art, de l'histoire.
Voilà. Donc tu vas faire de la spécialité en première ?
Oui, peut-être.
Donc je pense que tu reviendras au musée, c'est ça ?
Sur ce tableau, on peut voir Saint-Sébastien qui est attaché à un arbre, le corps troué de flèches. Son visage ne reflète pas le souffle de vie et il se tord de douleur. L'ensemble des couleurs est assez sombre avec des nuances de bleu qui se rapprochent du noir et un mélange de marron et de vert qui rappelle que la scène se déroule dans une forêt. Si on se penche plus précisément sur l'histoire de l'œuvre, donc c'est l'empereur Dioclétien qui a ordonné à ses soldats de tirer des flèches sur Saint-Sébastien en découverte de sa foi chrétienne. Heureusement, il va triompher et se tirer de son tragique destin grâce à sa foi et grâce à l'ange qui est venu le secourir. Donc Saint-Sébastien, c'est le saint patron des archers. C'est pour ça que chaque année, lors de la Saint-Sébastien, les compagnies d'archerie se réunissent et portent une statue en son honneur. De cette manière, les traditions persistent toujours. Merci de m'avoir écouté.
Et tout de suite, Laura, responsable de la documentation de la médiathèque, suivie de Sandra, responsable de la communication du musée, et Dorothée Benard, professeure d'histoire et géographie et histoire des arts. Qu'en as-tu pensé de toutes ces auditions ?
Bah, c'était très bien, c'était très intéressant justement de voir l'évolution entre le moment où elles choisissent les œuvres et le moment où elles transmettent à leurs camarades. Bah, y a une vraie évolution, il y a le travail de recherche, de retranscription des informations, donc non, c'est toujours intéressant. Et de voir aussi qu'elles sont très à l'aise à l'oral, surtout ça. Ça me bluffe.
Alors moi, je compléterai effectivement parce que l'aspect médiation est impressionnant, mais juste entre la répétition qu'on a eue il y a 15 jours, la répétition qu'on a eue en début d'après-midi, et là, la vraie présentation, même entre ces trois phases-là qui sont très proches au niveau du temps, on a senti qu'elles avaient été beaucoup plus à l'aise et qu'elles prenaient plaisir à faire cette médiation, alors que la première fois qu'elles l'ont fait, on sentait qu'elles étaient très stressées. Pour nous, c'est ça qui est intéressant, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de vos élèves ?
Moi, je suis très fière d'elles parce qu'elles ont vraiment fait un beau travail. C'est quand même pas simple de s'exprimer en public. La plupart sans notes. Elles maîtrisaient très bien leur sujet, donc elles l'avaient travaillé. Et très à l'aise à l'oral. Et c'est vrai qu'on a vu la progression positive sur l'année entre la timidité du début d'année et puis là, le fait de pouvoir s'exprimer devant un public. Ce n'est pas simple et on peut les féliciter.
Alors, est-ce que ça se passe pareil dans d'autres lycées ?
En fait, l'option, donc l'histoire des arts, c'est quelque chose de rare dans les établissements. Dans l'académie, il y a 4 établissements qui ont la spécialité histoire des arts. Et l'option, on doit être 3 ou 4 établissements également dans l'académie. Donc, c'est vraiment une spécialité rare. Le programme est le même, mais après, le parcours est différent. Chaque enseignant est libre, mais ils doivent aussi faire un projet collectif. Après, c'est à la libre appréciation de l'enseignant et de ses élèves.
Et donc, l'année prochaine, elles vont être en première. Est-ce que vous allez les suivre dans l'histoire des arts ou il y a d'autres professeurs ?
Alors, l'année prochaine, certaines d'entre elles vont continuer en spécialité histoire des arts, mais pas toutes. Et nous, en effet, que ma collègue, Madame Balestra, on suit ses élèves en spécialité. Et puis, on a aussi le collègue d'art plastique, Monsieur Montbailly, qui se joint à nous pour l'enseignement de spécialité.
Madame Balestra, comme ma collègue, je suis fière, je suis ravie de voir cette progression. Je suis également très très satisfaite de voir qu'elles sont fières elles-mêmes de leur travail et qu'elles ont confiance en elles. Et là, qu'elles rayonnent actuellement, elles sourient, elles sont très présentes dans le musée à côté de leurs camarades avec le sourire, donc ça fait plaisir. C'est un défi bien relevé.
Steve.
Noah.
Hamza.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'ont fait vos camarades ?
En vrai, c'était cool, hein.
T'as appris des choses ?
Ouais. En vrai, ouais. Hein.
Qu'est-ce que t'as
appris ? C'était instructif qu'il y avait une croix avec trois barres et ça signifiait plusieurs mondes.
Alors, franchement, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, en plus, ça se voit, elles ont bien travaillé parce que ça demandait c'était un long discours et tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'était un travail régulier et tout ça. Ouais, c'était instructif. Genre, on a appris plein de choses, que ce soit sur les arts, que sur la religion. Ou alors sur les tenues vestimentaires d'avant.
Ouais, ça c'était intéressant, c'était cool. Moi qui n'ai pas trop musée, j'ai un peu bien aimé.
Ouais, c'est la première fois que tu venais au musée peut-être ?
Non, pas la première fois. D'habitude, je ne suis pas trop intéressé. Alors, en même temps, les filles de ma classe, ils ont travaillé dessus, je me suis concentré, je les ai écoutés. Ça va, c'était cool. Hein, ouais.
Et est-ce que vous aviez envie de faire cette option, histoire des arts ?
Ah, franchement, c'est pas ce que je vise pour plus tard. C'est pas mon projet. Moi, je voudrais rentrer au STI 2D, mais sans option.
C'est pas mon truc.
Est-ce que vous avez choisi déjà un métier ?
Ouais, moi, ce serait faire STMG pour plus tard soit travailler dans les vêtements, soit travailler dans être marin pêcheur.
Moi, je voudrais rentrer dans l'armée marine.
Moi, je vais faire directeur marketing.
Vive l'histoire des arts !
Vous venez d'écouter la médiation d'œuvres d'art choisies par des lycéennes au musée de l'Archerie et du Valois, dans le cadre d'une option Histoire des arts du lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois.